On a Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour, une aberration réparée. Les pompiers peuvent désormais effectuer des gestes d'urgence en toute légalité, des soins jusqu'à présent réservés aux médecins. Visite à Paris aujourd'hui du Premier ministre indien Narendra Modi. Au menu des discussions, l'Ukraine, mais aussi la vague d'islamophobie soutenue par le parti hindou au pouvoir. Au procès de la tragédie SNCF de Brétigny-sur-Orge, le début d'une bataille d'experts, accident imprévisible ou déficit de maintenance. Et puis le sport avec ce soir Real Madrid-Manchester City, demi-finale retour de la Ligue des Champions. La magie Benzema va-t-elle encore opérer? Les supporters comptent sur leur idole française pour une qualification en finale.
Et avec Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'ancienne championne du monde de boxe, Aya Sissoko. Elle publie Au nom de tous les tiens, c'est aux éditions du Seuil.
France Inter.
Les sapeurs-pompiers réclamaient, Laurence, cette avancée depuis longtemps, pouvoir pratiquer des soins d'urgence.
Et notamment 12 gestes techniques, jusque-là réservés aux soignants. Le décret publié fin avril va notamment autoriser les soldats du feu à prendre en charge la douleur. Cette évolution majeure chez les pompiers va permettre de sauver plus de vies, car entre déserts médicaux et pénurie de médecins, les urgences vitales peuvent tourner au drame. Yann Gallic.
Jusqu'à présent, les pompiers n'avaient même pas le droit de donner un cachet de paracétamol. Désormais, ils pourront délivrer des médicaments pour les asthmatiques, des antidouleurs, injecter une dose d'adrénaline ou encore faire un électrocardiogramme. Ces gestes permettront de sauver plus de vies, estime Norbert Berginia, médecin-chef des sapeurs-pompiers dans la Manche.
La possibilité d'utiliser des médicaments va permettre d'avoir très rapidement pour tous les citoyens sur tout le territoire l'apport de médicaments qui, sans leur administration rapide, n'auraient pas pu permettre de sauver la victime, notamment lors de chocs allergiques. Mais ça va aussi permettre d'orienter rapidement le médecin régulateur pour que le patient soit amené dans des filières de soins plus rapidement.
En cas d'urgence vitale, ces nouvelles pratiques permettront de gagner un temps précieux, notamment dans les déserts médicaux. Sandra Rossi est infirmière chez les sapeurs-pompiers de l'Aude.
Dans le département de l'Aude, où c'est un territoire rural, des fois on a 3 heures entre le lieu de l'intervention et une médicalisation possible. La prise en charge de la douleur sur une intervention qui est à 3 heures d'un hôpital, c'est une plus-value extraordinaire pour la victime.
Selon Sandra Rossi, c'est aussi une forme de reconnaissance pour les pompiers qui mettent en avant leur maillage sur tout le territoire face à la pénurie de soignants.
Yann Gallic, les négociations entre la France insoumise et le Parti socialiste, eh bien toujours pas d'accord en vue des législatives, pour les législatives, alors que le Parti communiste a rejoint hier l'Alliance de gauche. Aux yeux des insoumis, le PS est bien trop gourmand sur le nombre de circonscriptions au regard de son piètre résultat à la présidentielle. Pendant ce temps, la majorité observe ce bloc de gauche en devenir, car il y aura des candidatures uniques dans les grandes villes où Jean-Luc Mélenchon a frappé fort au premier tour de la présidentielle. C'est le cas à Paris, Nanterre, Grenoble ou encore Roubaix et Waterloo. Dans la 8e circonscription du Nord, ça s'annonce d'ailleurs compliqué pour la députée En Marche qui voit débarquer un lieutenant de la France insoumise, Maxence Lambrecq.
Dans sa permanence parlementaire, Catherine Hausson garde des tracts d'Emmanuel Macron.
Bah là, c'est le reste de la campagne des présidentielles, parce que mon coffre de voiture est encore plein, il va falloir que je le vide, parce qu'on va entamer une autre campagne bientôt, j'espère.
Impatiente de mener le combat, cette ancienne socialiste observe les négociations stupéfaites.
On ne peut pas brader l'Europe, on ne peut pas brader ses idées sur la laïcité pour des circonscriptions. Une gauche dans la majorité, elle sera beaucoup plus efficace qu'une gauche de posture.
Le mois dernier, dans cette circonscription, Emmanuel Macron est arrivé 20 points derrière Jean-Luc Mélenchon, qui envoie l'un de ses porte-paroles.
Je l'ai croisé une fois dans un lieu touristique de Roubaix, mais on se connaît pas, il est pas d'ici. Est-ce que les Roubaisiens ont besoin de quelqu'un qui est connu à la télé et qui passera son temps à Paris? Je ne pense pas.
J'étais à Roubaix hier, j'y retourne ce soir.
David Guiraud, 28 ans, originaire de Seine-Saint-Denis.
C'est les insoumis localement qu'on fait ce choix de porter une figure nationale à Roubaix ou à Trollo. C'est pas du parachutage, c'est des renforts. Je suis pas tout seul, contrairement à elle. Nous, on a une équipe de militants, de militantes, qui sont tous les jours sur le terrain, qui sont tous les jours auprès de la population.
Il y a 5 ans, ici, la gauche est partie divisée. 4 candidatures qui ont permis au FN de se qualifier au second tour. Cette fois, l'ambiance est différente.
Ça commence à être un peu fébrile, ça commence à trembler.
Si la nouvelle Union populaire arrive devant le RN, Catherine Hausson sait que ce sera très compliqué pour elle. Waterloo, Maxence Lambrecq, France Inter.
Vers un 6e paquet de sanctions européennes contre la Russie, ce nouveau train de mesures vise à diminuer progressivement massivement les importations de pétrole russe. Arrêt total des achats d'ici à la fin de l'année, sauf pour la Hongrie et la Slovaquie, deux pays enclavés, totalement dépendants des livraisons russes, pour lesquelles la substitution est beaucoup plus difficile. Alors que les Européens préparent donc cet embargo contre le pétrole russe, les forces russes ont lancé pour la première fois l'assaut contre la Syrie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne. De nombreux enfants sont toujours pris au piège à Mariupol et ailleurs, d'où cette alerte lancée par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, première victime de la guerre en Ukraine. Anne Avril, directrice générale de l'UNICEF.
Il y a à peu près la moitié des Ukrainiens qui ont traversé les frontières qui sont des enfants. C'est-à-dire que c'est presque un enfant chaque seconde qui, depuis deux mois, affronte les frontières de son pays, partant sans savoir quand il pourrait revenir, avec souvent une maman ou un grand-parent. Et c'est absolument indispensable que nous, pays limitrophes, je parle de l'Europe en général, on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, l'UNICEF estime qu'il y a 2,2 millions d'enfants qui sont en danger en Ukraine, c'est-à-dire qui ont besoin d'assistance humanitaire. Ce sont des centaines probablement encore à Mariupol, à Odessa. Il faut absolument que ces 2,2 millions d'enfants aient accès à une aide d'urgence. Et c'est ce que nous faisons, continuer à soutenir l'UNICEF sur unicef.fr.
Anne Avril, la directrice générale de l'UNICEF. L'Ukraine y lancera aussi question aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le Premier ministre indien. L'Élysée, étape d'une tournée européenne éclair et qui espère convaincre Narendra Modi de se rapprocher de la position des Occidentaux sur la crise en Ukraine. Car l'Inde, dépendante et du pétrole et des armes russes, a jusque-là soigneusement évité de condamner l'agression russe contre l'Ukraine. Et il est un autre sujet sensible en Inde, cette vague d'islamophobie soutenue par le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi. Des extrémistes hindous ont appelé ouvertement il y a 5 mois au massacre et au viol de musulmans avec l'assentiment silencieux des autorités. Du coup, une centaine d'anciens hauts fonctionnaires viennent d'écrire une lettre ouverte au Premier ministre pour lui demander de réagir. Explication de notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
Ils étaient jusqu'à récemment les plus hauts fonctionnaires de l'État indien, l'ancien conseiller à la sécurité nationale ou les directeurs des administrations fédérales et régionales. 108 membres de cette élite s'alarment aujourd'hui de voir que les pouvoirs publics sous l'autorité du parti nationaliste hindou, je cite, tordent la constitution et les lois pour imposer la tyrannie de la majorité hindoue et forcer la minorité musulmane à vivre dans une peur constante. À cause de cela, ces musulmans indiens n'ont souvent plus le droit de prier librement, disent-ils, de manger ou de porter ce qu'ils veulent. Selon Shiv Shankar Mukherjee, ancien ambassadeur au Royaume-Uni et signataire de cette lettre, cette dérive suprémaciste risque de mettre en cause les fondements démocratiques de l'Inde et le Premier ministre ne peut donc plus rester muet.
Qui d'autre peut parler ? Presque tout le pays est ravagé par une vague de haine et de plus en plus l'Inde est gouvernée par les émeutiers. Dans cette situation, le silence du Premier ministre équivaut à une approbation.
New Delhi soutient que ces attaques sont isolées et menées par des groupes radicaux. La diplomatie française, elle, affirme s'entretenir avec les autorités indiennes sur ces sujets, mais préfère le faire en privé pour l'instant. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
Battez-vous, battez-vous. Plusieurs milliers de manifestants hier soir à New York pour crier leur colère contre les intentions de la Cour suprême des États-Unis de casser le droit constitutionnel à avorter. Selon un document interne de la haute juridiction, on serait sur le point d'interdire ce droit, ce qui reviendrait à la situation d'avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement. Et compte tenu des fractures sur le sujet, une moitié des États, surtout dans le centre et le sud, conservateurs et religieux, devraient rapidement bannir l'avortement. Alors Joe Biden, le président américain, bat le rappel à gauche. Il appelle ses électeurs à choisir des candidats favorables au droit à l'IVG lors du scrutin de mi-mandat.
Il est 7h38 au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, le début de la bataille des experts.
Et deux thèses vont s'affronter à partir d'aujourd'hui devant le tribunal d'Evry. D'un côté, celle de la SNCF. Pour elle, le déraillement de l'intercité Paris-Limoges, qui a fait 7 morts et plus de 400 victimes il y a 9 ans, était imprévisible. Et de l'autre, Mathilde Vinceneu, celle des experts judiciaires, qui pointent un déficit de maintenance des voies.
À l'origine de l'accident, il y a cette éclisse, une sorte de grosse agrafe métallique sur les rails. Elle s'est retournée, le train a déraillé. Les experts mandatés par la justice expliquent que sur cette pièce, un boulon manquait, d'autres étaient usés. Il y avait une fissure mal surveillée, des problèmes de maintenance donc. Les experts reprochent aussi aux cheminots jugés de n'avoir rien remarqué lors de sa tournée sur les voies quelques jours avant. La SNCF, elle, se défend. Sur le cheminot d'abord, elle affirme qu'il était expérimenté, que s'il n'a rien vu, c'est qu'il n'y avait rien à voir. Sur la cause de l'accident, enfin, elle a engagé d'autres experts qui plaident une toute autre thèse. Si les boulons ont lâché, ce n'est pas à cause de l'usure, mais d'un défaut dans le métal. Impossible à prévoir, impossible donc de considérer la SNCF comme responsable. Des conclusions mises en doute par l'accusation, les juges d'instruction soupçonnent l'un des experts recrutés par la société d'avoir voulu masquer la réalité. Il devrait justement s'expliquer aujourd'hui à la barre.
Mathilde Vinceneuve, football en Ligue des Champions, c'est Liverpool qui ira en finale, vainqueur à l'aller. Les Anglais ont remporté la demi-finale retour, 3-2 chez les Espagnols de Villarreal. Les Reds se qualifient ainsi pour la 10e finale de Ligue des Champions de leur histoire. Et ils affronteront au Stade de France le 28 mai Manchester City ou le Real Madrid. Le Real sous pression avec un but de retard en match aller, mais les supporters comptent sur le Français Karim Benzema pour renverser la vapeur. Mathieu de Taillac.
À la sortie de la boutique du Real Madrid, difficile de trouver une voix discordante. Les supporters savent ce qu'ils doivent à leur numéro 9, meilleur buteur de la Liga et de la Champions League. Yahaira, venu hier compléter sa panoplie de madridistas, ne tarit pas d'éloge à l'égard de Benzema.
Je crois que sans lui, on ne serait pas arrivé à ce stade, à la demi-finale. Et en championnat, on n'aurait pas gagné la Liga. C'est quelqu'un qui a progressé, il joue de mieux en mieux et en ce moment, il est au sommet de son art.
Manel, lui aussi, a observé une progression de passeur timide à buteur et meneur de jeu affirmé.
Cette année, c'est le meilleur du monde. C'est lui qui contrôle toute l'équipe. Si tu regardes bien, c'est lui qui dit d'aller à droite, d'aller à gauche. Au moins en ce moment, c'est le meilleur. Le match va être difficile ce soir, mais Benzema va marquer, c'est sûr.
Les supporters du Real n'ont pas la réputation d'être les plus modestes d'Espagne. Il est vrai aussi que le Santiago Bernabéu sait pousser son équipe quand il faut refaire son retard à domicile. Madrid, Mathieu de Taillac.
Manchester City au Real Madrid. En finale, eh bien, réponse ce soir à 21h au stade Santiago Bernabéu.
Laurence Thomas, merci. L'édito politique, Thomas Legrand, à suivre.